de Jean chapitre 21. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'être humain, on aime beaucoup les histoires très romantiques. Quand je parle de romantique, je ne parle pas nécessairement de romantique, d'histoires amoureuses, mais d'histoires qui se terminent bien, d'histoires romantiques qui sont inspirantes. J'aime beaucoup le hockey et cette semaine, il y avait vendredi soir et samedi la sélection des recrues pour la Ligue nationale de hockey. Et les Penguins de Pittsburgh, qui ont cette longue histoire depuis 21 ans avec Sidney Crosby, ont sélectionné deux jeunes hommes, des jumeaux, au 22e et 39e rang. Et ils se sont organisés pour faire des échanges, pour réussir à avoir ces choix-là et de réussir, avant les autres, de prendre et d'avoir les deux jumeaux dans la même équipe et refaire ce que les Vancouver, les Canucks de Vancouver ont fait il y a de cela près de 30 ans avec les frères Sedin, qui sont devenus aujourd'hui les DG de cette équipe. Ils sont fusionnés ensemble. Et ils cherchent à avoir une histoire qui va marquer, qui va frapper ces deux frères qui pourraient, dans 2 ans, 3 ans, jouer avec Sidney Crosby et prendre le relève des Penguins de Pittsburgh et avoir une histoire romantique à la suite de cette grande histoire avec Sidney Crosby. Vous voyez le typique, hein? Une belle histoire inspirante. On aime ces histoires de gens persévérants, de gens qui ont été jusqu'au bout, qui sont doués et qui relèvent les défis et qui inspirent les films, inspirent évidemment nos vies, inspirent des héros. Mais la majorité d'entre nous, on ne s'identifie pas dans notre vie nécessairement à cela. Il y a d'autres histoires moins populaires. Les Canadiens de Montréal ont sélectionné il y a quelques années en arrière un jeune homme qui avait une histoire judiciaire en Finlande, un Canadien. Et pour lui, ils l'ont échangé il y a juste un an. Il y avait une histoire où il avait enregistré un débat sexuel et il avait mis ça public. Et tout ça avait fait une grosse histoire, sa sélection. Et là, tout à coup, c'était l'histoire de est-ce que ce jeune-là, on peut le restaurer? Où ça va toujours lui coller à la peau. Vous imaginez, hein? Une histoire, un scandale des journaux. Et là, ce jeune homme-là, qui est encore mineur, fait une bêtise, s'est connu publiquement dans les journaux de différents pays, sélectionné par l'équipe la plus connue. Est-ce qu'il est récupérable? Est-ce qu'on va réussir à mettre une belle histoire et le restaurer? Finalement, le Canadien l'est chargé à une autre équipe. Et l'histoire verra s'il sera une vedette, quelqu'un qui va retrouver sa place, qu'on va oublier ses fautes passées. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est pas une histoire romantique. Ça, c'est une histoire où quelqu'un a les mains sales, une réputation. Est-ce que c'est possible qu'il s'en sorte et que ça lui colle pas à la peau? Vous me suivez? Et on aime les histoires romantique. On aime moins ces histoires où ce que it's dirty business, en anglais on dit. Les mains sales. Est-ce que c'est récupérable, ces gens qui ont trahi, ces gens qui ont fait un crime, ou est-ce qu'on leur colle toujours à la peau? Généralement, on est comme ça, hein? On colle l'histoire à quelqu'un toute sa vie. On l'étiquette par un événement, par une faute. Et c'est dur pour nous de restaurer quelqu'un. Ça ne rentre pas dans nos histoires romantiques. Et beaucoup d'entre nous, on se sent comme ça aussi. On se sent dans nos vies, et moi le premier, indigne. Ah, si tout le monde savait tout ce que j'ai déjà vécu, tout ce que j'ai déjà fait, quelle honte! On a tous besoin de restauration à différents niveaux, que ce soit de restauration d'une situation difficile ou de restauration dans notre foi alors qu'on s'est planté, qu'on s'est éloigné, qu'on s'est refroidi ou même comme Pierre, chapitre 21, qu'on a trahi. Est-ce que c'est récupérable? Et on voit Jésus se salir les mains, rejoindre celui qui, dans la honte, s'est refroidi, qui semble pas récupérable, et le restaurer. Mais c'est difficile, restaurer. En anglais, on dit c'est « dirty business », c'est salissant. Je me rappelle l'histoire inspirante que ma sœur m'a racontée, ma petite sœur, vous ne la connaissez pas, Isabelle, la plus jeune des 4 enfants chez nous, était aux États-Unis il y a quelques années et sa voisine était dans une situation de drogue et j'oublie toute l'histoire, mais elle l'a accompagnée pendant 7 jours pour faire son sevrage. Et là, tout ça, elle croyait aussi qu'elle avait une possession. Et pendant 7 jours, elle dormait dans le même lit de cette femme, elle ne pouvait pas quitter la pièce, elle ne pouvait pas la laisser seule. Et elle a pris soin de sa voisine pendant 7 jours pour l'amener vers un sevrage. Quand je parle de « dirty business », là, salir les mains. Quand ma sœur m'a raconté ça, ça m'a tellement touché de voir prendre soin de sa voisine comme ça pour lui donner l'amour de Jésus. De l'autre côté, on a des fois des péchés qui nous reviennent, qui nous font tomber continuellement. J'ai un ami cette semaine qui m'a appelé, que je vais voir prochainement. Il est en route en train de passer Trois-Rivières il y a 2-3 jours. Je m'en vais à Montréal, Joël, il dit, j'ai eu des rechutes, je suis découragé dans ma consommation. La dernière année a été difficile, ça n'allait pas pire, mais là, le mois de mai, juin, j'ai chuté. Je suis tanné, je suis épuisé de rechuter dans la drogue et l'alcool. Il dit, là, je m'en vais essayer une thérapie, prie pour moi. Et là, dans l'auto, j'étais en train de prier pour lui, pour l'encourager. Et là, il m'a rappelé sur le chemin du retour pour voir si on pouvait se voir en passant sur le bord de l'autoroute à un endroit. J'aime ça, quelqu'un qui me dit avec transparence, avec honnêteté, ses chutes, qui me parle de ses faiblesses et qui dit, moi, je me bats. Et là, je me disais, continue. Je trouve ça tellement admirable de voir quelqu'un qui, au lieu de lancer la serviette, de se laisser aller dans son vice, dans son péché, qui serait tellement plus facile, de ne pas le dire, de cacher la honte, il dit. Et le dire est une manière de se protéger. Et il se bat malgré les moments de honte qui le font chuter et qu'il trouve difficile. Et qu'il laisserait, mais il ne veut pas se laisser aller. Il a un fils, il avait déjà perdu la garde, il veut se battre. Et ça, je trouve ça admirable. Et Jésus, vous savez, Jésus a les deux pieds dedans, ce ministère de restauration. Jean chapitre 21, c'est la première fois que je prêche ce texte. J'ai déjà enseigné brièvement, mais jamais prêché ce texte. Et je vous avoue, cette semaine, à tous les jours, j'ai pris du temps pour méditer. Pas juste étudier une journée, mais toute la semaine. Et ce texte m'a vraiment fait du bien. Et peut-être vous dites, ben, moi, je ne suis pas dans de la restauration. Joël, ça va bien dans ma vie chrétienne. Oui, mais peut-être que tu as besoin de juste ce matin apprécier et voir Jésus avec son cœur de restaurateur pour que tu aies ce regard de compassion qui peut-être est dur avec les autres. Parce que ça va bien, David, des fois, c'est dur de comprendre ceux que ça ne va pas bien, ceux que c'est instable, ceux qui ont un héritage d'instabilité, puis d'avoir de l'amour et de la compassion pour eux. Et peut-être c'est ça que le Seigneur veut pour toi, ou peut-être ce matin, tu te sens comme ça, que tu caches ton péché, tu te sens toujours en train de retomber, tu es découragé de toi-même, tu te sens irrécupérable, ou même tu as honte, tu n'oses même pas servir dans l'Église, parce que tu dis, si les gens savaient, je ne peux pas rien toucher, je ne suis pas fiable, j'ai telle honte dans ma vie. Peu importe ton état ce matin, le Seigneur veut te parler. Il veut te montrer le cœur de Dieu à travers Jésus. Le cœur restaurateur, cette attention incroyable du Messie, du Fils de Dieu, pour ceux et celles qui souffrent, autant par leur erreur que par des épreuves. Autant dans ta bêtise que tu sembles te disqualifier à toute forme de service, et pourtant, le Seigneur ne te définit pas. Que Jésus aimait. Donc, après cela, après sa résurrection, après avoir rencontré que Jésus aimait. Donc, après cela, après sa résurrection, après avoir rencontré Thomas, lui a invité à une pleine confiance et parlé du but de croire de Jean, il dit, après cela, Jésus se manifesta à nouveau aux disciples. Sur le bord de la mer de Tibériade, qui est la mer de Galilée, voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, qu'on appelle Didyme, qu'on vient juste de mentionner au chapitre précédent, Nathanaël de Cana. Alors, est-ce qu'il y avait rapport avec l'histoire de Cana et ce vin qui était, cette eau changée en vin? Probablement, il y avait quelque chose là-dedans avec cet homme-là qui était de Cana. Les fils de Zébédée, donc Jean et Jacques, deux autres disciples se trouvaient ensemble. Et là, Simon-Pierre lui dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était déjà le midi et Jésus se tint sur le rivage, mais ses disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Ah, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson? » Non, lui répondirent-ils, et Jésus le sait évidemment. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ben oui, on l'a pêché toute la nuit. Sûrement qu'on l'a essayé droite puis gauche, mais là, tout à coup, il y a un smat sur le bord de l'eau qu'on ne connaît pas, puis qui dit, « Ben, tire-la à droite. » Je connais ça, ces affaires-là, des trucs de même qu'on t'offre de même. Ça n'a pas l'air très crédible. Et pourtant, on dit, « Ils jetèrent eux. » Excusez-moi, ils le jetèrent et il eut tant de poissons qu'il ne pouvait pas le ramener. Et là, le disciple que Jésus aimait, donc qui est Jean, alors dit à Pierre, c'est le Seigneur. Au moment que ça s'est passé, Il y a un souvenir qui lui est venu. C'est juste le Seigneur Jésus, cet homme-là, qui peut faire une chose, qui peut nous avoir dit. Et là, il se souvient d'une scène passée qu'on va raconter dans l'histoire, d'un instant. Et dès qu'il eut entendu, c'était le Seigneur. Simon-Pierre saignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Et les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas bien loin de la rive, 200 coudées environ, donc c'était un 100 mètres, grosso modo. Et probablement, c'était le 100 mètres le plus rapide de sa vie pour notre ami Simon-Pierre. Une fois descendu à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Et Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet qui se remplissait de 153 poissons. Ouais, il y a quelqu'un qui les a comptés. Moi, j'aurais été genre à compter. Trop curieux. Hein? On aurait compté ensemble. Hein? C'est 1, 2, 94, 95, puis 153. Puis c'est pas des petites truites qui sont juste borderline, là, tu sais, là, juste limite, là, tu sais, là. Non, c'était des gros, là. Fait que là, moi, j'imagine, évidemment, c'est pas le même poisson, là, mais d'être à Chugamo, de sortir du doré, là, puis là, c'est pas juste ceux de 37 cm sur la fesse, là, tu sais, là. C'est tout du 53 cm, là, là, avec des beaux, gros filets, là. Ah! Juste à y penser, je suis excité. Faut que je me calme. On continue. Et là, quoi qu'il en soit, le filet ne se déchirait pas. Et Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osa poser la question. « Qui est-ce? » Ils savaient bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus vint et prend le pain et leur donna. Il fit de même avec le poisson. Et ce fut la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Père Céleste, bénis ta parole dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, ce matin, de la façon que tu veux, mais parle-nous. On a besoin de t'entendre nous parler, peu importe l'état de notre cœur ce matin, aussi loin qu'on puisse être ici, Seigneur, de toi, aussi proche qu'on puisse l'être de toi ce matin. Parle-nous selon le besoin de mon cœur ce matin. Comme tu prends soin du cœur de tes disciples, et particulièrement de Pierre, prends soin de notre cœur, Seigneur, ce matin. Et conduis ton serviteur à parler avec justesse de toi et de ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Quelle histoire! Alors, on est dans cette dernière de plusieurs personnages qu'on a vus à travers les dernières semaines. Et pour le moment, là, quand je pèse sur le piton, ça ne avance pas. Alors, je vais laisser mon frère s'occuper de tout ça. Alors, on a fait déjà une dizaine de personnages et je ne sais pas si Tony ou Marco vont terminer la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ils n'ont pas encore décidé de leur enseignement, mais on termine cette série de gens. Et on a vu Pilate, on a vu la femme samaritaine, Nicodème, Thomas, Marie. On a vu différentes femmes et hommes, des gens croyants, des gens pas encore croyants, dans une variété de situations. On a vu Pierre, évidemment, au chapitre 13. Et là, c'est pas loin plus tard, hein? C'est à peine... Peut-être quelques semaines plus tard. On ne sait pas exactement la distance de temps où ce que Pierre a finalement accepté de se faire laver les pieds par Jésus. Et là, maintenant, entre-temps, il a trahi Jésus. Et là, il rencontre Jésus encore une fois. Donc, Jésus t'appelle, répondras-tu? Et pour comprendre cette histoire, il faut se placer devant la mer de Tibériade. C'est une photo, j'y étais il y a 19 ans de tout ça, sur le bord de la mer. À Tibériade, justement, vous voyez ici le côté direction sud, ce qu'on peut voir de l'autre côté, et puis le côté plus nord, qui est beaucoup plus large, une quinzaine de kilomètres, c'est un grand lac. Et ces hommes, pour la majorité, ont grandi sur le bord de ce lac-là, un grand lac que nous, on appelle la mer de Galilée, où ils ont pêché toute leur vie. C'était leur métier pour plusieurs de ses disciples. Et Jésus avait, contrairement à ce que certains pensent, des fois, ils disent « Ah, ils sont retournés à leur métier, à travailler », Jésus leur avait dit « Je vais vous précéder en Galilée. Allez en Galilée. » Et deux fois, c'est mentionné, même par Jésus lui-même, dans Marc et dans le livre de Matthieu également, qu'il les précéderait d'aller. Et les frères sont allés là, et ils sont sur le bord de l'eau, sachant pas trop quoi faire. Ils sont entre deux. Évidemment, Pierre, lui, est dans cet entre-deux avec un souci de sa trahison, une honte qu'il porte. Et donc, ils s'en vont sur ce lac qu'ils connaissent bien pour pêcher. Un grand lac où ils ont passé plusieurs nuits, où ils ont vécu des tempêtes avec Jésus. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. Ils ont vu aussi même un des disciples marcher et puis couler sous les eaux. Ils ont vu le miracle de la multiplication des pains sur le bord de cette eau, justement, une des plages où ce qu'on pouvait certainement à l'époque trouver beaucoup de bateaux sur le côté, justement, ouest du lac. Et de l'autre côté, lorsqu'on regarde vers le nord, c'est la montagne où ce qu'on croit que Jésus a fait la multiplication des pains, où ce qu'on croit aussi que possiblement Jésus a fait le sermon sur la montagne. D'être sur ce grand lac, pour eux, ne rappelait pas juste leur nostalgie de pêcheurs. Un lieu qu'ils avaient passé toute leur enfance, mais aussi un lieu où ils ont connu Jésus depuis 3 ans, où ce que Jésus les a appelés sur le bord de cette mer-là. Et vécu des choses extraordinaires tout autour du lac. Il y a des villes où il y a eu des choses qui se sont passées partout autour du lac, même du côté des païens, des non-croyants, des non-juifs. Et ils sont sur le bord de ce lac-là et Jésus vient les rencontrer là, dans cet endroit où ils sont dans un entre-deux, entre le découragement et l'aspiration de qu'est-ce qui va se passer. Il vient les rencontrer là. Et je ne sais pas dans quel état que tu es ce matin. Est-ce que tu es dans un état de découragement, de statu quo, que tu es en attente ou que tu te sens justement sur le bord de la game en train de regarder les autres, mais toi, tu es assis sur le banc, tu regardes, tu ne te sens pas digne, pas assez bon pour embarquer dans la game parce que tu portes de la honte, parce que tu portes des échecs à répétition, parce que tu portes la crainte du regard des autres et de leurs commentaires s'ils savaient des choses dans ta vie. La peur du jugement. Ou peut-être tu es dans la game, mais avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de confiance. Et que le Seigneur veut de l'humilité de ta part dans ton service. Je ne sais pas dans quel état tu es ce matin, mais le Seigneur veut te parler. Peu importe dans quel état tu es ce matin, il veut te rencontrer par cette histoire avec Pierre. Et c'est une photo que j'ai mise ici qui montre il y a environ 120, 130 ans encore, comment c'était, et probablement beaucoup, comment c'était à l'époque. Les vieilles barques pour lesquelles, fragiles, qu'on allait en mer, et qui devaient être assez grosses pour soutenir les vagues quand c'était rough sur la mer de Galilée, parce que ça pouvait être rough. Et l'histoire biblique nous le démontre aussi. Ce matin, l'échec n'est pas la fin de ton histoire lorsque Jésus intervient. Il restaure pour que tu puisses à nouveau le suivre et à nouveau le servir. Quand Jésus relève ceux qui sont tombés. Et c'est ce qu'il fait ce matin. Jésus nous cherche dans nos échecs. Il vient les rejoindre en Galilée. Il vient les rejoindre en ce lieu de nostalgie de pécheurs. Il vient les rejoindre dans ce lieu de nostalgie, de leur appel, ce lieu de nostalgie de grands miracles, de grands sermons de Jésus et aussi de leur ancienne vie et de son appel sur le bord de la mer. À ces hommes qui sont perplexes. Jésus est ressuscité, mais qu'est-ce qu'il advient de nous autres? Ils ne se sentent pas dignes, ils ne se sentent pas capables, ils ont peur. Et Jésus vient chercher tout particulièrement Pierre dans sa situation. Peut-être ce matin, vous vous dites, bien, je ne sais pas si le Seigneur me court encore après, je me sens seul. J'aimerais te dire ce matin que le Seigneur te pourchasse encore, il te cherche. Tu n'es pas encore assez loin, assez sale pour qu'il ne puisse pas te chercher, même si tu te sens isolé dans la froideur. Et certainement que Pierre avait beaucoup de ses sentiments, mais il était en Galilée, il attendait. Et le texte nous dit que Jésus s'est présenté à eux, mais d'une façon inusitée et d'une façon en même temps qui remémorait une pêche miraculeuse. Peut-être vous rappelez cette pêche dans Luc chapitre 5. Une pêche miraculeuse où là, les filets se sont brisés, où on n'a pas compté les poissons. Et où ce que ça s'est rempli les bateaux d'eau et qu'ils avaient une expérience similaire. Passer la nuit à pêcher, ça ne s'est peut-être pas passé bien. Et là, le matin, ils avaient amené Jésus au loin, ils prêchaient à la foule, puis après, Jésus dit, « OK, éloignons-nous un peu du bord, puis allons pêcher. » Puis il dit, « Jésus, on a passé toute la nuit, là. Mais c'est correct, sur ta demande, on va repêcher. » Et là, tout à coup, ils vivent une pêche miraculeuse. Et là, quand Jésus avait réalisé ça, c'est au tout début du ministère, Pierre réalise ça. Vous vous rappelez la réaction de Pierre cette première fois-là? Il se jette dans l'eau. Il dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il se voyait humblement pécheur, indigne de la présence de Dieu. Puis en voyant ce miracle, il savait que c'était le Fils de Dieu. Il savait que c'était le Messie. Il avait commencé à le suivre, mais là, ce signe-là lui scie les jambes. Et sa réaction est tout de suite une réaction d'humilité. Une réaction qui dit, Seigneur, je suis indigne de toi, je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi, tu ne veux pas être proche d'un gars comme moi. Ma vie, mes problèmes... Tu ne veux pas être proche d'un gars comme moi. On voyait un Pierre indigne, pécheur. Et à travers son ministère avec Jésus, on l'a vu, Pierre gagner en confiance, prendre la prestance et dans son impulsivité répondre toutes sortes de choses, des fois se faire rabrouer même par Jésus. Et moi, personne qui moi, je ne t'abandonnerai jamais. Les autres vont peut-être t'abandonner. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Il venait de le dire au chapitre 13. Et il le dit ailleurs dans Marc et surtout dans Matthieu, chapitre 26. Dans cette dernière soirée avec Jésus. Mais il l'avait trahi. Il l'avait trahi. Malgré tout, ce gars-là confiant se retrouve à la même histoire de sa première rencontre avec Jésus, marquante. L'appel de Jésus, le moment où il se voyait pécheur, le moment où Jésus est allé le voir et qu'il voyait pour la première fois, « Seigneur, je suis indigne. » Jésus lui fait revivre tout ça par un retour en arrière d'une pêche miraculeuse. Il rencontre, il vient à sa recherche. Lorsqu'il est un pêcheur, dans son métier, pas juste un pêcheur, mais un pêcheur de poissons, il vient le rencontrer là. Je vois la bonté, la patience, l'attention personnalisée de Jésus dans sa manière d'approcher Pierre. Vous ne trouvez pas? Quelle attention de Jésus! Et il ne s'approche jamais de nous de la même façon, n'est-ce pas? Le Seigneur connaît nos personnalités, nos luttes, nos besoins, nos expériences avec lui. Et il ne vient pas me rencontrer sur le bord d'un lac, moi, en train de pêcher. J'aime bien pêcher, mais je n'y ai pas été assez souvent. Il nous rencontre de différentes manières dans chacune de nos vies. Mais le Seigneur le fait. Et peut-être ça vous rappelle, alors que je vous parle présentement, des moments où il est venu à votre recherche, qu'il t'a rencontré dans un moment éloigné, découragé. Ou ce qui est venu te chercher. Rappelle-toi de ce moment. Cette attention de Dieu. Ce geste d'amour personnel pour te ramener à lui alors que tu étais d'un moment peut-être de questionnement, un moment dur, un moment d'isolement. C'est pas Pierre, mais c'est Jésus. C'est bien Jésus qui vient le chercher. Certains pensent que Dieu les a abandonnés. Certains vivent dans la honte. D'autres vont strictement arrêter de servir pour éviter les problèmes, les déceptions, la critique et se sauver des problèmes. Et pourtant, Jésus vient encore aujourd'hui sur le rivage de nos vies, rencontrer nos échecs. Et il le fait avec tellement d'attention. Il y aurait plusieurs autres choses à remarquer ici, mais j'aimerais juste vous lire, malgré toutes ces remarques, une remarque d'un pasteur que j'apprécie, qui parle de ce métier de pêcheur et cette attention de Jésus dans cette rencontre. Il dit, « Ces deux miracles de pêche illustrent peut-être la façon dont le Seigneur aide son peuple à pêcher les âmes perdues. Tous nos efforts sont inutiles sans sa direction à lui et sans sa bénédiction. Jusqu'à maintenant, nous n'ignorons combien de poissons ont été pêchés au début, mais nous avons parfois l'impression que les filets sont sur le point de craquer. » Mais à la fin, lorsque nous verrons le Seigneur, nous découvrirons le nombre de poissons et aucun ne sera perdu. Jésus a appelé les disciples, y compris nous, à être des pêcheurs d'hommes. Et Jésus n'a pas inventé, vous savez, cette phrase, elle était utilisée à l'époque des enseignants grecs et romains. Pour être un pêcheur d'hommes, il, à l'époque, signifiait de chercher et persuader des hommes pour les attraper avec la vérité. Et un pêcheur, vous savez, prend des poissons vivants, mais il meurt quand il les enlève du filet. Mais le témoin de Jésus-Christ cherche à attraper les poissons morts par leur péché, et quand il les attrape, ils viennent à la vie en Jésus-Christ. Quelle différence! Nous comprenons aussi donc pourquoi Jésus avait tant de pêcheurs dans son équipe de disciples. Les pêcheurs savent comment travailler. Ils ont le courage et la foi pour aller au large. Ils sont patients et persévérants et n'abandonnent pas. Ils travaillent de concert les uns avec les autres en équipe. Ils sont doués pour utiliser l'équipement et le bateau pour attraper. Voilà l'exemple à suivre pour attraper les poissons pour Jésus-Christ. Des âmes perdues qui se meurent, pris dans les filets de leurs péchés et de ce monde. Nous sommes en effet des pécheurs d'hommes et il a des poissons tout autour de nous qu'il veut qu'on participe avec lui à amener à la vérité en Jésus-Christ. Amen. Jésus qui fait de ses disciples des pécheurs d'hommes et qui vient les reprendre là où ils étaient découragés et refroidis. Remarquez bien maintenant Jésus qui restaure le cœur de celui qui est dans le découragement. Et remarquez bien ici la manière unique que vous connaissez déjà parce que certainement vous avez lu plusieurs fois ce texte, mais Jésus vient rencontrer Pierre d'une façon très personnelle par trois questions. Trois questions, et ce n'est pas les questions qu'on aurait posées. La première question, c'est « À quoi t'as pensé pour me trahir? » L'autre question, c'est « Ben voyons donc! » Juste pour, tu sais, faire sentir un petit peu plus, tu sais, là, c'est ça qu'on fait quand nos enfants font une gaffe, non? Hein? On ne pose pas des questions intelligentes, on pose des questions pour faire sentir mal, hein? Pour faire être sûr qu'il regrette vraiment, là. Es-tu vraiment repentant? On veut le voir, là, hein? Et on s'assure de faire sentir tout le poids. Et Jésus, ici, de ces trois déclarations de reniement de Pierre, Jésus va lui poser trois fois essentiellement une question simple. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais avec des variantes qui s'accommodent aussi avec la réponse de Pierre. On va le lire ensemble tranquillement et observer comment Jésus s'y prend. Rappelez-vous qu'il y a juste quelques versets en arrière, quand on regarde Luc chapitre 22, à la fin du chapitre, on lit au même moment, comme il parlait, le coq chanta, et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Vous imaginez ce regard-là, hein? Il est dans la cour, il ne s'identifie pas, il vient de René, puis là, il voit au loin Jésus, le regard après le coq. Et là, il se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit, qu'il avait dit qu'il le renierait, puis lui a dit jamais. Et là, on dit, et s'étant sorti, il pleura amèrement. C'est cet homme-là à qui Jésus pose ces trois questions. Et Jésus, ici, par ces questions, va toucher la racine du problème. Pas la superficialité, pas des conséquences, pas la honte, pas l'écraser plus, comme nous, on le ferait naturellement. Le problème n'est pas seulement le comportement, le problème est toujours lié au cœur. Et vous savez, le christianisme n'est pas lié, est basé sur la performance, mais il est basé sur la relation avec notre Dieu. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre au verset 15, « Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Et ça fait couler beaucoup d'encre. C'est qui ceux-ci? C'est-tu les poissons sur le bord de l'eau? On n'imagine pas les poissons. Hein? Mais non, mais tu m'aimes-tu plus que la pêche? Mais plus, on est plus porté à croire qu'il parle des disciples qui s'étaient vantés. Moi, j'ai aimé plus que tout le monde. Peut-être m'aimes-tu plus que ceux-ci? Peut-être c'était ses disciples autour de lui. Parce que ça semble être une rencontre publique sur le bord du lac, sur le bord du feu. Il lui répondit, « Oui, Seigneur. « Je t'aime, tu le sais. » Là, ici, les écrivains vont prendre le temps de noter. Ici, il y a le plus qu'il fait une comparaison. Mais là, ici, l'amour qui est mentionné, c'est l'amour agapao, l'amour d'engagement, un amour sacrificiel. Et là, lui répond par l'amour philéo, donc l'amour d'amitié. Parfois, dans le livre, vous savez, les deux mots sont utilisés d'une manière synonymique, avec des nuances, mais est-ce que c'est absolument cette comparaison-là de mots qu'il y a dedans? Ça semble progresser, ça semble en jouer dedans, mais pas être uniquement ça. Mais il y a une comparaison ici, et lui va dire, « Tu sais, Seigneur, j'ai de la filéo pour toi. » Il garde ça court, puis il confirme qu'il a cet amour-là, mais sans ajouter ce que Jésus vient de dire. « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger ou fais paître mes agneaux. » Le mot utilisé, même pour lui, dans Apocalypse, hein, l'agneau de Dieu, c'est le mot qu'il va utiliser à plusieurs reprises dans Jean, dans l'Apocalypse. Au verset 16, il lui dit, une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Là, il n'ajoute pas la comparaison. Donc, il l'amoindrit ici. Il répondit, oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Philéo, encore ici. Un amour d'amitié. Jésus lui dit, « Sois le pasteur. » Et là, il s'est fait pas juste paître, mais « Sois le berger de mes brebis. » Là, verset 17, il dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? » Et là, il utilise « phileo » ici. Fait que, tu sais, c'est dur de dire qu'il n'est pas en train de jouer avec les mots ici. Il s'ajuste dans son discours avec lui à mesure qu'il avance avec la réponse de Jean, pas de Jean, de Pierre, qui, tranquillement, ici, est en train d'être humilié, de réaliser que son amour n'est pas tout à fait ce qu'il voudrait qu'il soit pour Jésus. Il n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il aimerait être pour Jésus. Il sait très bien. Et c'est trois questions d'affilée, c'est malaisant. Faites ça d'une conversation, de répéter trois fois la même chose. Je vous garantis qu'il va y avoir un malaise. S'il n'a pas compris la première fois, rendu à la troisième fois, d'habitude, ça arrête. Parce que trois fois, avec aucune nuance, répéter la même chose, ça porte à réflexion, n'est-ce pas? Et c'est intéressant, hein? Dans quelques chapitres plus loin, dans le livre des Actes des apôtres, à un moment donné, il va lui donner un songe. Il va répéter trois fois à Pierre. Vous vous rappelez, là, de « mange des animaux impurs », puis là, et première fois, puis là, il ne veut pas, puis une deuxième fois. Puis il faut qu'il fasse trois fois. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est dur de comprendre chez Pierre, comme chez beaucoup d'entre nous. Mais trois fois, il va le répéter à Pierre aussi, cette question-là de « mange, mange ». Et pour le convaincre, et finalement, il va obéir. Et c'est trois fois de renier, c'est trois fois de Jésus qui pose la question, trois fois de « mange ». En tout cas, porte à croire. Il fallait trois fois pour Pierre, pour comprendre des choses. Et ça m'arrive souvent aussi, n'est-ce pas? Que ça me prend moi aussi trois fois pour comprendre. Pas juste mes enfants que je répète trois fois, hein? Les autres ici, les adultes, des fois, il faut nous répéter trois fois de la part de l'Éternel. Arrête de faire ça. Non, fais pas ça, tu vas te faire du mal. Non, fais pas ça, tu vas te faire du mal. Là. Tu sais que c'est écrit là, que je veux pas que tu fasses ça, ça va te faire du mal. Et on le fait quand même. Que ça prend du temps à répondre. Et il continue. Il est dit, verset 17, « Pierre fut peiné. » Parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que tu m'aimes? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu connais tout, tu sais bien que je t'aime, que j'ai de l'amour filéo pour toi. » Alors Jésus lui dit, « Sois le berger ou fais paître mes brebis. » La même phrase que la première phrase. Une chose est certaine ici, dans la manière dont Jésus lui parle, il est en train de travailler son cœur. Après ces trois années où il avait bâti la confiance et dans son arrogance, son impulsivité, et là maintenant il était humilié, « OK Pierre, je vais t'utiliser avec les mots que tu utilises. Je vais prendre, t'es là, Philéo, je vais te prendre avec Philéo. Et on va travailler ensemble là-dessus. Te prendre là où ce que t'es, peut-être pas où ce que tu voudrais être. » Et Jésus n'est pas déçu, il l'accompagne, il le restaure. Vous savez, c'est tellement plus facile de disqualifier les gens. Ah, lui, il ne peut pas à cause de ça. Ah, puis elle, ne peut pas à cause de ça. Ah, tu as fait ça, bien là, laisse faire. Nous, les êtres humains, on disqualifie facilement. Tu m'as déçu, tu m'as trahi une fois, c'est fini, je ne te prie plus jamais confiance. C'est dur de regagner la confiance une fois qu'on l'a perdue. On enseigne souvent ça à nos enfants. Tu sais, si tu perds la confiance, c'est un long chemin, là, puis c'est décourageant des fois. Parce qu'on n'oublie pas. Et on le rappelle aux gens s'ils l'ont oublié ou s'ils ne donnent pas des signes qu'ils ne l'ont pas oublié. Hein? Parce qu'on va être sûr que... Parce que c'est facile blâmer, disqualifier, écarter quelqu'un. Mais travailler à qualifier quelqu'un, le restaurer, ça, c'est de la job. Et ça, c'est ce que Dieu fait. C'est pour ça que chacun d'entre nous peut être ici. Le Seigneur ne nous a pas disqualifié à la première erreur. Il nous a repris, il nous a ramenés, il a été sur le bord de l'eau avec nous autres, il nous a pris la main, il nous a fait un lunch quand on était faible physiquement, avant même de nous parler, il nous a nourris avec du pain et du poisson pour qu'on soit à l'écoute. Il a pris soin de Jésus, vous avez remarqué ce qu'il fait? Il les nourrit, il a passé la nuit, un gars à qui tu parles, puis il a le ventre qui grogne, il n'écoutera pas aussi bien, c'est sûr. Il nourrit, il prend soin de lui, là il est rassasié. Il dit, « Mon Pierre, il faudrait qu'on jase. » Ah, OK, ouais, la discussion, là. Ouais, la discussion, là. OK, m'aimes-tu? OK, je ne pensais pas que tu allais me dire ça, là. Ah, tu sais, Seigneur, que je t'aime. Mais Jésus a pris soin de lui avant. Notez l'attention de Jésus et sa manière de l'accompagner. Pour moi, là, c'est tellement renversant. Je ne suis pas naturellement comme ça. On n'est pas naturellement comme ça. Restaurateur comme Jésus, attentionné, à restaurer, fortifier. Et Jésus le fait. Et il lui donne, il fait vivre sa grâce. Et ce matin, ce qu'on lit ici, c'est un texte tellement touchant. Et on peut se demander après ça, est-ce que Pierre a compris? Mais le reste de la vie nous semble, de sa vie semble nous dire que oui, et on peut lire ceci dans Pierre, dans le livre de Pierre, chapitre 5, il dit ceci, au chapitre 5. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont des anciens parmi vous. Moi qui suis un ancien comme vous, comme eux. Ah, OK, il n'est pas plus grand que les autres anciens, Pierre. Comme vous, je suis un ancien comme vous. Je ne suis pas un super ancien, je suis un ancien comme vous. Ben là, c'est Saint-Pierre qui vient de dire ça. Ça devrait nous faire réfléchir. Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu. Hein? Pierre écrit cinq chapitres, dans le cinquième chapitre, il parle de prendre soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Un peu plus loin, il va parler même au verset 4. Lorsque le souverain berger apparaîtra, ben oui, il connaît le chef berger, il connaît. Il a eu les soins du chef berger, Pierre. Il sait c'est quoi le chef berger, qu'est-ce qu'il fait, puis comment il prépare les bergers à prendre soin des brebis. Parce qu'il faut vivre sous le grand chef berger. Il connaît ça, il en parle. Là, il nous dit comment se servir et prendre soin, sans prendre avantage, à prendre soin de manière vraiment détachée de notre gain, puis pas par ci, pas par ça. Puis on voit son... Il a compris des choses sur le travail de berger que Jésus l'a amené à faire. Il dira même au verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous appelle à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. » Des promesses qu'il nous donne de notre avenir. Ça, c'est Dieu. Le Dieu restaurateur qui prend soin, qui ramène la brebis qui est égarée, la brebis qui est dans la honte, parce que c'est ce chemin-là que le Seigneur a décidé de prendre. Pas les flamboyants, pas les performants, pas ceux qui semblent instruits, pas ceux qui se démarquent, qui ont toujours de l'air à aller bien. Non, il aime prendre celui qui semble maladroit pour prendre soin de l'autre. Et ici, je ne pense pas qu'il parle juste à des pasteurs, vous savez. Je pense que c'est l'appel à tous les croyants. Il dit, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. Tu dis être disciple de Jésus-Christ. Mais si tu aimes Jésus, tu es supposé d'aimer ceux que lui aime. Et son amour est supposé de te projeter à avoir de l'amour pour ses brebis. Alors, le plus grand geste dans cette église qui peut être fait pour montrer que l'amour de Jésus est dans ta vie, c'est dans la manière dont tu traites ton frère, ta sœur dans l'église. Ça dit quelque chose de comment tu aimes Jésus. Comment tu considères la personne au bout de la rangée, à ta gauche, au bout de la rangée, à ta droite? Comment tu la vois? Ou tu la vois juste à travers ses péchés, à travers ses manquements, ou comment elle n'a pas été fiable il y a des années pour tel ministère, puis moi, je n'y confierai plus jamais rien. Ça, c'est nous, hein? Et pourtant, Jésus n'a pas fait ça avec Pierre. Pierre l'a renié en sacrant. Imaginez, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, Dieu incarné en homme. Il a suivi 3 ans, il a vécu des expériences incroyables, puis il a renié Jésus en sacrant 3 fois plutôt qu'une. Et Jésus leur met leader de ses disciples. C'est incroyable. Juste quand on pensait qu'on savait comment comprendre et exercer du leadership, on ne sait absolument rien de comment leader et prendre soin. Il faut qu'on retourne à celui qui est le chef berger, chapitre 21, et c'est comme ça qu'il veut qu'on prenne soin de l'Église. Les uns envers les autres. Cet même égard-là, pas juste regarder l'autre avec sa faute et le regard qu'on a de ce qu'on sait de lui ou de elle, mais le regard de Christ. Jésus restaure notre cœur. Il y aurait tellement à dire, mais ce que je veux qu'on remarque ici, c'est comment Jésus prend soin de Pierre et que le cœur de Jésus est lié à aimer ses brebis. Puis si tu m'aimes, regarde la manière dont tu traites les brebis de Jésus. Jésus nous remet en mission. Regardez les versets suivants. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Je vous lis les versets 18. Amen, amen, ou en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Tu étais un gars indépendant, tu allais où ce que tu voulais, tu ne demandais pas la permission, tu décidais d'aller pêcher, tu y allais, tu avais le goût d'aller gambler, tu allais gambler, tu avais le goût de faire ça, tu voulais marier la fille au coin de la rue, tu l'as mariée, tu faisais ce que tu voulais, Pierre. Tu étais un gars qui avait sa propre volonté, indépendant. Et là, Jésus lui dit, « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudras pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. 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 » Jésus est sur le bord de la mer de Galilée. Il y avait 18 mois, il y a plus que 3 ans. Il avait vécu 3 Pâques au moins avec lui. Et là, cette ultime Pâque, il l'a trahi, Jésus est ressuscité. Et sur le bord de cette même mer-là, Jésus lui dit encore une fois, « Suis-moi. » Vous imaginez ce que ça a dû faire sur le cœur? « Sois mon acolyte. Viens être celui qui va être à côté de moi. Encore une fois, suis-moi. » Il continue à demander, à inviter, et se limite pas à ses fautes. Et c'est intéressant ici de voir ce que Jésus lui dit. Jésus lui parle de l'avenir, alors que il vient d'être restauré, il lui dit que sa vie passée ne va pas être vécue de la même façon dans l'avenir. Il dit qu'il va mourir d'une manière particulière, et c'est clair dans les paroles qui est là, peu importe comment tu le comprends, qu'il ne va plus jamais le trahir. C'est rassurant ici pour Pierre qui lit ça. Mais en même temps, ça crée de l'intrigue. Ah ouais, hey, ma vie, okay, qu'est-ce qui s'en vient, etc. Et voilà, ça va amener une autre question. Mais j'aimerais vous dire ceci. Dieu a parlé de la manière dont il le glorifierait dans sa mort. Pas comment il y aurait un miracle avant qu'il meure. Pas comment il serait guéri avant qu'il meure. Qu'il serait exempté d'une mort terrible. Il dit, alors, tu vas me glorifier dans ta mort. N'est-ce pas ce à quoi on est tous appelés? Glorifier Dieu dans la manière dont on va mourir. Nous, quand les gens meurent, on les porte plutôt à prier pour être sa guérison de son cancer, la guérison de son problème cardiaque. Et pourtant, à un moment donné, voir qu'on meurt, on va tous mourir. Hein? Et ici, c'est plutôt comment il va glorifier Dieu. J'étais édifié cette semaine, je parlais avec Mme Dugré-Caron, avec Claudette. Et on parle ensemble parce qu'elle est en train d'accompagner sa fille, à accompagner sa petite fille qui est morte cette semaine. À 32 ans, une jeune femme qui a été adoptée d'Haïti et qui s'est éteinte à l'âge de 32 ans. Et ça faisait des semaines. Et il y a tout un processus que je vous épargne de raconter. Mais ce que j'ai aimé de ce qu'elle me racontait, on s'est parlé 2-3 fois dans le dernier mois à ce sujet-là, elle racontait comment et qu'elle glorifiait Dieu dans sa manière de mourir. Dans son attitude, dans ses choix, dans ce qu'elle dégageait, dans sa foi. Elle glorifiait Dieu. Et c'est ça qui m'a marqué dans l'écoute de ce que Mme Dugré me racontait. Sa fille de 32 ans qui meurt dans une paix en Jésus, qui a dû prendre la décision d'arrêter de l'acharnement thérapeutique, sachant que ça arrêtait de fonctionner, ça ne marchait plus. Elle était en chaise roulante depuis des années. Elle avait une condition de santé. Et les gens qui... Elle voulait juste pouvoir visiter toutes ces gens avant de mourir. Et elle me parlait de sa petite fille de 32 ans qui glorifiait Dieu en moi. Voulez-vous pas? C'est pas la manière de le dire. Voulez-vous pas mourir de même? Mais ça se dit pas de même. Mais vous comprenez que... Mais ça, j'aimerais mourir comme ça. Que les gens autour de moi voient la gloire de Dieu dans ma manière de mourir. À 32 ans, à 62, puis à 92. C'est ça. Mourir en glorifiant Dieu. Pour certains, c'est de taper comme Pierre. Clément de Rome nous raconte, dans un livre qui lui est attribué par les pères de l'Église, que Pierre est mort en envers. Il dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme Jésus. Et ils l'ont mis en envers. Et c'est ce que la tradition nous raconte. Et les pères de l'Église racontent que cet écrit par Clément est authentique. Je ne suis pas digne de mourir de la même façon. Pour Pierre, c'était de mourir de cette façon-là. Pour d'autres, c'est de mourir autrement. Pour d'autres, c'est de mourir avec dignité, en prenant soin de ceux qui viennent te voir sur ton lit de mort. C'est de parler de Jésus jusqu'à la fin. Je me rappelle encore de l'attitude de mon grand-père à l'hôpital en train de mourir, comment il traitait gentiment chacune des gardes-malades, leur disait merci pour les soins, les traitait avec tellement de dignité, de bonté. Ça me touchait de voir sa gentillesse envers ceux qu'il soignait. Mais évidemment, après ça, il pose une question. Jésus nous appelle encore à le suivre. Regardez bien ce qu'il dit. Pierre s'étant retourné après avoir su ce que le Seigneur lui dit, il dit, « Et le disciple que... » Il se tourne derrière lui vers le disciple que Jésus aimait. Il dit, « Celui... » En fait, on identifie que celui que Jésus aimait, c'est celui qui était au repas, qui était à côté au chapitre 13 sur la poitrine de Jésus. On comprend que c'est Jean. Et là, au verset 21, « Quand il le vit, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Parce que tu viens de parler de mon avenir. « Bien, lui, là, celui que tu aimes, qui est à côté de sa poitrine, qu'est-ce qui lui va y arriver? » Et là, Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, c'est pas de tes affaires, peu importe, toi, suis-moi. » Et là, on lit après ça, c'est à partir de cette parole qu'on a répétée parmi les frères, que ce disciple ne mourrait pas, parce que Jean, évidemment, a été le dernier à mourir. Fait que certains disaient, « Ah, il ne mourra pas jusqu'au retour de Jésus à cause de ces paroles-là. » Et Jean clarifie, « Non, non, ça n'a pas rapport avec ça. » Il est en train de reprendre l'autre. Il dit, « Écoute, ce n'est pas tes affaires ce que ça va faire avec l'autre. Mets toutes tes affaires. Toi, suis-moi. » Ouais, mais l'autre, lui, il a ça. Puis là, hey, laisse faire l'autre à côté de toi, là. Son appel, puis ses dons, puis son histoire. Toi, suis-moi. Oui, mais mon mari, ma femme, toi, suis-moi. Oui, mais mon soeur, ma femme, mon frère, mon voisin. Hey, laisse faire, toi, suis-moi. On est porté à se comparer, à regarder autour. Laisse faire les autres, là. Toi, suis-moi, lui dit Jésus. Et là, c'est la deuxième fois qu'il répète dans le même chapitre. Il est sur le bord de l'eau ici, dans le même endroit qu'il a appelé il y a 3 ans. Suis-moi. J'espère que Pierre a compris. Il y a eu plus que 3 « suis-moi » dans sa vie, minimum, l'invitant à tout abandonner et de vivre jusqu'au bout avec son appel indépendamment des autres. Le temps m'est compté et j'aimerais conclure ce matin, même s'il y aurait tellement de choses à dire. Ce matin, là, je me répète de ce que j'ai dit au début, je vous invite à relire ce texte-là. C'est vraiment un beau texte et je ne fais qu'effleurer le contenu de ce texte-là. Pour voir la bonté de Jésus, son cœur pour toi, comment il te regarde, peu importe comment toi tu te regardes, et comment il veut aussi que tu regardes les autres. Il y a une profondeur relationnelle, une richesse dans notre relation avec Dieu à aller chercher dans ce texte-là que je peux juste, en 45 minutes, effleurer réellement. Je vous invite à le lire et à voir le cœur de Jésus pour vous et pour les autres. Il y a vraiment des vérités ici à nous transformer, à nous renverser et à développer une plus grande connaissance de Jésus pour lequel j'espère transpirer sans être évidemment capable de tout vous faire vivre ce que Pierre a vécu sur le bord de ces eaux, de cette mer. Jésus t'appelle à la restauration. Remarquez au verset, un petit détail que j'aimerais vous faire remarquer au verset 9. Regardez le verset 9. On nous dit ici que Jésus les accueillit sur le bord de l'eau et il y avait un feu de braise, de charbon. Ce mot-là est utilisé seulement 2 fois dans le Nouveau Testament et c'est Jean qui l'utilise. Il l'a utilisé au chapitre 18. Vous vous rappelez ce qui se passe au chapitre 18? Ils étaient en train de se réchauffer sur le bord d'un feu de braise. Et là, une femme lui a posé une question au chapitre 18. Vous vous rappelez là maintenant? Et c'est là, devant ce tas de braise-là, qu'il a trahi Jésus. Et qu'il le renie. Et là, la seule autre fois où ce même mot-là est utilisé, c'est un brasier que Jésus fait sur le bord de la Galilée, accueille Pierre, le nourrit, pain et poisson, comme il l'a fait au chapitre 6, avec les pains et poissons qu'il a donné à cette multitude. Le pain de vie prend soin de lui. Et là, tout à coup, ce lieu, sur le bord d'un feu qui était un lieu de honte, devient un lieu de restauration dans un même environnement, sur le bord d'un feu. C'était sur le bord d'un feu qu'il y avait la honte. C'est sur le bord d'un feu que Jésus a relevé la honte. Amen. Amen. Souvent, le Seigneur vient nous chercher ironiquement à un endroit qu'on ne penserait jamais. Un lieu de honte peut tout à coup devenir un lieu de bénédiction et de restauration dans sa relation avec Jésus. Ce matin, tu crois peut-être que ton passé te disqualifie. Je vous rappelle ici que notre ancien pasteur, qui est toujours notre bien-aimé ici, pasteur Benoît, bien lui, le Seigneur l'a appelé quand il est en train de prier pour aller voler une banque. Puis il a fait 2 ans de prison. Puis il a commencé sa formation théologique en prison. C'est ça nos pasteurs à l'Église baptiste de Trois-Rivières. Bienvenue à Trois-Rivières Beach. Est-ce que vous voulez vraiment faire partie de cette église? Ou est-ce que même un prisonnier peut devenir pasteur? Un homme qui priait que Dieu bénisse son vol. Quand même, hein? Il faut le faire. Par la grâce de Dieu, peut devenir un pasteur et prendre soin et paître le troupeau. Effectivement. Et c'est pasteur Benoît qui va apporter la parole en passant à la fin d'octobre, lorsqu'on va célébrer nos 65 ans d'histoire d'Église. Pasteur Benoît va apporter la parole à cette occasion le 25 de octobre pour cette belle occasion où ce qu'on va se rappeler, nos souvenirs, inviter des gens un peu partout pour célébrer la fidélité de Dieu le 25. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est si tu crois que tu es disqualifié, je veux que tu saches que Jésus, tu es un candidat pour lui. Tu es un candidat pour lui. Quand tu es brisé et humilié, il y a de la place pour Jésus. Pourtant, Jésus l'accueille. Tu as abandonné certaines choses, tu t'es refroidi dans ta foi, tu as peut-être honte. Jésus t'appelle à arrêter de te sauver et de juste revenir à lui, parce que lui veut revenir à toi. Arrête de te sauver. Ton échec ne définit pas ton avenir. Et si Jésus a pu utiliser Pierre après son reniement aussi honteux, il peut encore t'utiliser. Il n'y a pas de fin à comment Dieu peut recycler les bêtises humaines et nous utiliser. Et finalement, j'aimerais vous dire ceci ce matin. Ce texte nous montre qu'est-ce que ça veut dire « suis-moi ». Quand on lit ce texte-là, on voit c'est quoi « suis-moi ». Ce n'est pas toujours facile. Mais aussi, ce texte montre aussi quand Jésus dit « paie mes brebis », bien Jésus est en train de paître une brebis, et plus qu'une brebis. Et il nous montre comment qu'on paie une brebis, en étant gracieux avec. En parlant des vraies affaires et en disqualifiant pas juste parce que c'est trop facile, mais d'accompagner vers la restauration. On a chanté la restauration tantôt dans un des chants. Mon secours, c'est juste toi. Toi seul restaure. J'ai invité l'équipe de louanges à s'approcher. Toi seul restaure. T'es le seul secours. C'est de lui qu'on a chanté ce matin, vous savez. Et ces chants qu'on a chantés parlaient de ce Jésus, parlaient de ce Dieu restaurateur qu'on voit tout au long du chapitre 21 et pour lequel je ne fais qu'effleurer les grandes vérités de comment le Dieu, de la parole de Dieu t'aime. Comment le Créateur, tu es précieux pour lui. Et peu importe ton état ce matin, j'aimerais t'inviter à la prière avec moi. Et mettre devant Dieu ce qui est un obstacle. Règle-le, abandonne-le à Dieu. Arrête de grossir tes péchés pour grossir ton importance. Regarde la grandeur de Dieu, beaucoup plus grande que ton péché. Et qui a payé cher, puis il n'a pas été chiche pour payer pour ton péché. Puis tu sais quoi? Je vais t'apprendre quelque chose. Quand il t'a sauvé, là, quand il t'a appelé et t'a dit « suis-moi », il savait déjà toutes les bêtises que tu allais faire après ta conversion. Fait que c'est pas comme si « oh Joël, t'as fait ça. Oh, je suis déçu de toi, Joël. » Moi, je pense que c'est comme ça. Parce qu'avec mon père, c'était le même. Avec nos pères, c'est comme ça. Mais tu vois, ça, ça n'arrive pas avec le Dieu créateur. Il t'a appelé sachant toute ta vie, qu'est-ce que tu allais faire? Il n'y a pas de surprise. Il n'est pas comme moi. « Oh, tu n'as pas fait ça encore. » Dieu n'est jamais surpris. Il sait. Il m'a appelé malgré tout et m'accompagne dans mes chutes pour m'amener de plus en plus à son image, à sa stature parfaite. Et il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec la personne au bout de la rangée, peut-être que tu regardes avec un œil. Il n'a pas fini avec ton conjoint, ta conjointe ou ton conjoint. Il n'a pas fini avec ton enfant qui te décourage. Il n'a pas fini avec la personne dans ton ministère que tu sers avec qui n'est pas fiable des fois. Puis il n'a pas fini avec toi, Dieu merci. Levons-nous, louons son nom et prions le Seigneur. Levons-nous. Père Céleste, on est devant toi bien humblement, réalisant que nous avons besoin de voir ta grandeur et pas la grandeur de mes fautes. Oui, mes fautes sont graves. Mes fautes méritent la mort, Seigneur. C'est pour ça que tu as payé. Mais à regarder tellement mes fautes, Seigneur, je peux m'empêcher et je rester sur mon banc en toute sécurité, immobile, dans la peur, dans la honte, de rien faire, toujours jouer safe, ne pas m'aventurer dans la game parce que peut-être les gens ne vont pas trouver que je joue bien. Et d'être dans cette équipe, mais finalement être tout le temps sur le banc. Ah, Seigneur, C'est si facile de se laisser sur le banc ou d'être mis par quelqu'un sur le banc parce qu'il y a des fautes en moi. Mais c'est tellement plus dur d'accepter la restauration et de prendre le risque d'aimer, de prendre le risque d'embarquer dans la game que Dieu m'invite à embarquer dedans par la foi, pas sur mes capacités, mais sur le dos du Seigneur, de tes capacités, sur le dos de ton amour pour moi, sur le dos de ta force de restaurer lorsque je me plante, Seigneur. Arrête, Seigneur, de laisser mes yeux contempler ma faute. Je veux regarder toi, ô Dieu, ta bonté, ta grandeur, te célébrer ce matin. Et Seigneur, par la foi, ce matin, je veux rembarquer dans la game, aussi indigne que je me sente. Les yeux sur toi, et je te supplie ton aide ce matin. Je veux confesser mon péché encore et te demander, Seigneur, de me conduire à la victoire que tu as acquise à la croix. Ah, Seigneur, aide-moi à arrêter de cacher mon péché, ça ne m'aide pas. Mais de le confesser, d'en parler à quelqu'un avec qui, Seigneur, je vais marcher avec lui pour m'encourager, soutenir, travailler la transparence pour enlever l'accès du diable à me garder dans la honte et le contrôle d'informations. Ah, Seigneur, aide-moi ce matin à te faire confiance. Tu mérites ma confiance, ô Dieu, si attentionné, si bon. Et je veux marcher à ta suite parce que tu le mérites. Et te glorifier par ma vie et par ma mort. Et nous te prions, Seigneur, ce matin, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.